Chapitre 31. Le seul problème, continua Richard, c'est la souillure de Jeet dont tu as parlé. À cause de ce mal, mon don ne fonctionne pas, et sans lui, je ne vois pas comment je vais pouvoir remplir ma mission. Le sourcier leva une main puis la laissa tomber sur le parchemin déroulé devant lui. Contre des ennemis de ce type, sans mon don, je suis désarmé. Callan se leva et essuya les larmes qui perlaient à ses paupières. « Richard, tu as ton esprit. C'est tout ce dont tu as besoin. » Zed te l'a répété des dizaines de fois. « Ton intelligence est ton arme principale. Il en est ainsi depuis toujours. C'est grâce à elle que tu as compris tout ça. » Richard eut le sourire qu'il n'adressait qu'à Callan. Une réponse suffisante. Le sourcier était prêt au combat. Non, le cœur de la guerre. Mais Zed disait aussi que rien n'est jamais facile. Et il avait tort? Non. Pensant à son grand-père, Richard eut un sourire mélancolique. Mais ça ne m'a jamais découragé. Callan croisa les bras et marcha un peu de long en large. Dans son fauteuil, Nietzsche dormait toujours, mais puisqu'elle avait passé la nuit à traduire les textes avec Richard, elle était sûrement déjà au courant de tout. Toujours campée devant la porte, Cassia avait entendu tout ce que Richard venait de raconter et tout ce que Nietzsche et lui avaient dû se dire au cours de la nuit. À l'évidence, elle se rengorgeait d'être la mort de Sitch chargée de protéger le cœur de la guerre. Jusque-là, les femmes en rouge n'avaient jamais eu la chance de se battre pour un seigneur râle qui, de son côté, luttait pour elle. Cet homme était bien la magie affrontant la magie. Hélas pour l'heure, son pouvoir lui faisait défaut. Callan cessa enfin de faire les 100 pas. Nous n'avons pas le choix, Richard. Il nous faut gagner le palais du peuple le plus vite possible et trouver un moyen d'entrer dans le champ de protection. Si tu meurs, tu ne réaliseras rien de ce que ces manuscrits te destinent à faire. La priorité, c'est le mal qui te ronge. Richard se passa de nouveau une main dans les cheveux. Je sais que ça paraît être la solution idéale, Callan, mais c'est trop loin, vraiment. Je sens le poison faire son œuvre en moi et j'arrive à estimer le temps qu'il me reste. Pas assez pour atteindre le palais, c'est une certitude, même si nous ne devions pas pour ça franchir les lignes ennemies. Il faut quand même essayer. La souillure te ronge et si tu meurs, sous la canne triomphera. Nous devons tenter le coup. Au fond, il te reste peut-être plus de temps que tu ne le crois. Ton séjour dans le royaume des morts a fait reculer le mal, as-tu dit. Peut-être assez pour que tu arrives au palais du peuple. Tu ne peux pas échouer. Ces parchemins disent que tu es le seul à pouvoir affronter sous la canne. C'est vrai, ils le disent. Mais ils ne précisent pas quel camp l'emportera. Si la souillure te tue, l'affaire sera entendue, pas vrai? Donc nous devons arriver à temps, c'est aussi simple que ça. Sans rien dire, Richard se leva lentement. À son expression qu'elle connaissait parfaitement bien, Callan devina qu'il avait mené en lui une réflexion susceptible de mettre en place toutes les pièces du puzzle, et à l'évidence, il venait d'y parvenir. Quand son mari arrivait à une conclusion de ce type, la jeune femme n'était pas toujours ravie, loin de là, car en général il s'agissait d'une idée folle, une de ces intuitions géniales qui les précipitaient dans les ennuis, les conduisant dans une direction totalement inattendue. Mais presque toujours, ces idées folles se révélaient être la seule solution réaliste. « Qu'as-tu en tête ?» demanda l'inquisitrice en prenant le bras du sourcier. « Tu m'inquiètes. » Sans répondre, comme s'il n'avait pas entendu, Richard sembla regarder quelque chose qu'il était seul à voir, très loin de là. Là aussi, c'était typique. Explorant les multitudes de possibilités, il cherchait à savoir où chacune le conduirait, afin d'éliminer les impasses et les mauvais chemins. Si Callan avait bien compris, c'était ainsi que procédait un maître du Chaturanga. Avant de jouer un coup, il analysait toutes ses conséquences, générant une arborescence d'une incroyable complexité. Bien entendu, il suffisait d'une seule erreur de calcul pour perdre la partie. « C'est trop loin, » marmonna Richard. « Callan, tu l'as dit toi-même. Il nous faut arriver à temps, mais ça n'est pas possible. Et alors ?»« Le temps. » Richard prit les deux bras de sa femme. « Le temps. » Eux non plus n'auraient pas eu assez de temps. Eux? De qui parles-tu? Sans répondre, Richard approcha du fauteuil où dormait la magicienne et la secoua par la cheville. Réveille-toi! Nietzsche, réveille-toi! La magicienne sursauta.
Que se passe-t-il?
Nous partons. Nietzsche se frotta les yeux puis regarda Kalan en quête d'une explication. L'inquisitrice eut un geste d'impuissance.
Cassia?
Appela Richard.
Oui, seigneur Hall.
Va chercher le lieutenant Pfister. Dis-lui que nous avons besoin de chevaux pour nous et une dizaine d'hommes, plus des montures de rechange. Nous devons filer sur le champ. Et il nous faudra comme guide les hommes qui sont nés dans les terres noires. Pfister saura de qui je veux parler.
Nous partons? Mais où allons-nous, seigneur? File, il n'y a pas de temps à perdre. Exécute mes ordres.
Alors que la mort de Sith allait franchir la porte, Richard la rappela.
Ensuite, va chercher Moller. J'ai besoin de lui.
Cassia se tapa du poing sur le cœur puis sortit en trombe. Passant la tête par la porte, les deux autres morts de Sith tentèrent de comprendre ce qui se déroulait à l'intérieur de la salle. Cassia leur ordonna de l'aider à trouver le lieutenant Pfister, les guides et le scribe Moller, puis toutes trois partirent au pas de course devant des hommes de la première phalange médusés.
Kalan, Richard t'a parlé du cœur de la guerre?
Demanda Nietzsche tandis que le sourcier faisait les 100 pas, plongé dans une profonde réflexion.
Oui, et de tout ce qui va avec?
Je sais, ça semble tiré par les cheveux. Au début, j'ai eu des doutes, mais en lisant ces textes, j'ai compris que Richard avait raison sur toute la ligne. Presque toute ma vie, j'ai étudié des prophéties et réfléchi à la théorie qui les sous-tend. Jamais sous cet angle, cependant. En fait, je n'imaginais même pas qu'on puisse voir les choses ainsi. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de vraiment comprendre les prophéties.
Donc tu penses aussi qu'elles naissent dans le royaume des morts?
Nietzsche tourna la tête et suivit un moment des yeux les déambulations de Richard.
Sans tout ce que nous avons lu cette nuit, je n'aurais pas accordé de crédit à cette idée, mais c'était bien plus qu'une simple lecture. Ces textes démontrent que tout est lié, de ce qui arrive aujourd'hui jusqu'au temps des grandes guerres et même avant. À présent, j'ai du mal à comprendre comment j'ai pu rester aveugle à tout ça, en particulier la partie qui me concerne.
Qui te concerne?
Oui. Quand j'ai conduit Richard de force dans l'ancien monde, j'accomplissais en fait une des prophéties de ses parchemins.
Richard ne m'a pas parlé de ça, mais il n'a pas eu le temps de tout me dire.
D'un geste, Nietzsche indiqua à Kalan de prendre son mal en patience, puis elle appela Richard.
Où en es-tu de tes réflexions?
Le sourcier vint rejoindre les deux femmes.
Je ne suis pas encore totalement sûr de ma conclusion.
Je vois, dit Nietzsche. Quoi qu'il en soit, nous allons chevaucher jusqu'au palais du peuple, c'est ça? Tu as raison, c'est la meilleure solution.
À l'évidence, Nietzsche savait que ce n'était pas le plan de Richard, parce qu'il n'était pas réalisable dans le temps imparti, tout simplement. Du coup, la magicienne prêchait le faux pour savoir le vrai. Une méthode qui surprit un peu Kalan, mais qui semblait efficace.
« Quelle est la fonction de cette citadelle ?»
demanda Richard à Nietzsche.
« Pourquoi a-t-elle été bâtie ?»
Les mains croisées dans le dos, la magicienne entra dans le jeu du sourcier.
« C'est un avant-poste et une prison. Sa fonction était de retenir tous les gens dotés de pouvoirs occultes et d'organiser leur exécution puisque leur magie leur venait du troisième royaume. » Pour enrayer la contamination, il fallait les tuer. Sinon, le mal se serait répandu aussi vite qu'aujourd'hui.
Très bien résumé, fit Richard en regardant tour à tour les deux femmes. Et Stroiza, quelle était sa fonction?
Cette fois, ce fut Kalan qui répondit.
Faire office de première ligne de défense, ou plutôt de sentinelle, afin de pouvoir avertir le monde lorsque la haute muraille ne retiendrait plus les demi-humains dans le troisième royaume. Les magiciennes de ce village étaient chargées de surveiller la muraille et, en cas de problème, d'aller en Aydindril afin de prévenir le Conseil des sorciers.
Il n'y a plus de Conseil des sorciers en Aydindril depuis des lustres, dit Richard. Mais les magiciennes de Stroiza l'ignoraient.
Ces villageois croient encore que le Conseil dirige le Nouveau Monde. Comment avaient-ils prévu d'arriver en Aydindril avant les demi-humains en cas d'invasion?
Les gens emprisonnés derrière la haute muraille étaient originaires de l'Ancien Monde. Une fois libres, ils auraient foncé vers le fief même du pouvoir, comme Anis Arc et Sulakan aujourd'hui. Mais à l'époque, ce fief, c'était la forteresse du sorcier, pas le palais du peuple. Alors, comment les magiciennes auraient-elles fait pour atteindre leur destination avant l'ennemi?
Eh bien, elles auraient dû se dépêcher,
répondit Callan, ne voyant pas très bien où son mari voulait en venir.
Certes, mais Stroïsa est un coin perdu, loin de toute route et même des pistes les plus rudimentaires.
C'est normal puisque le troisième royaume devait être le plus éloigné possible du monde civilisé.
C'est exact.
À partir de Stroïsa, il n'y a aucun chemin direct qui conduise directement en Aïdindril.
Pourtant, il y a quand même des voies de communication afin d'assurer le commerce et l'approvisionnement.
De plus, les gens de Stroïsa vivent dans des grottes et ne se déplacent pas à dos de cheval. Comme me l'a dit Esther, Stroïsa est leur foyer et ils n'ont aucune raison d'aller ailleurs. En d'autres termes, voyager n'a aucun attrait pour eux.
« De nos jours, » intervint Nietzsche, « ils ont peut-être oublié qu'il leur fallait des chevaux. Après tout, ils ne connaissent plus grand-chose de leur propre mission parce que le temps a brouillé leur mémoire collective. De plus, ayant perdu la capacité de lire le langage de la création, ils ne savent plus déchiffrer les messages laissés sur les parois de leur grotte.
« Nous avons des chevaux, » dit Richard, « et pourtant, nous n'arriverons pas à temps. »
« Parce que les hordes de Sulakan ont beaucoup d'avance sur nous, » rappela Callan.
« Même si nous le rattrapons, franchir leur ligne sera difficile avec tant de guerriers et de sorciers noirs.
Sans parler de leur maître, un roi spectral. Sulakan peut ranimer autant de morts qu'il le désire. Ces meutes formeront un obstacle infranchissable.
Je répète donc ma question. Comment l'émissaire de Stroïsa, une magicienne, aurait-elle fait pour franchir cet obstacle et atteindre la forteresse à temps pour que la défense puisse s'organiser?
Si la haute muraille avait cessé de remplir sa fonction plus tôt, les gens de Stroïsa auraient eu le même problème que nous.
C'est probable, et ça paraît une sacrée faille dans le système de défense des anciens sorciers.
D'autant plus qu'ils savaient, pour l'avoir créé, que la haute muraille ne remplirait pas éternellement sa mission.
Stroïsa n'était pas là au cas où il y aurait un problème, mais en prévision du jour où ça se passerait.
Nos ancêtres ne prenaient pas la menace à la légère. Ils n'auront donc pas fait reposer le sort du monde sur un réseau de communication si fragile.
Quand tu présentes les choses de cette façon, ça paraît évident.
Qu'as-tu en tête, Richard?
Tu crois qu'il y avait une manière plus rapide de prévenir le Conseil des sorciers?
Oui.
Avant que le sourcier ait pu en dire plus, le lieutenant Pfister arriva au pas de course, plaquant le fourreau de son épée contre sa hanche afin qu'il ne le gêne pas. Plusieurs hommes le suivaient.
« Les guides nés dans les terres noires », reconnut Callan.